Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, au cœur de l'été, avec nos invités, nous réfléchissons à la question de quoi manger est-il et sera-t-il le nom. Cet après-midi, nous sommes en compagnie de Michel-Édouard Leclerc, PDG de l'enseigne de grande distribution Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ?
Oui, beaucoup. D'abord, c'est une préoccupation qui vient avec l'âge, avec la perte d'une certaine, on va dire, flexibilité, motricité. On refuse à le voir et puis un jour, par incident, des tendinites, de l'arthrose, on fait attention à son corps, on revisite son corps. Et ça m'est arrivé, donc j'ai 65 ans, je mange bio, je mange diététique, je mange un peu de tout, je ne suis pas idéologue de ce que je mange, mais je me rends bien compte que ça me fait du bien de bien choisir mes aliments.
Est-ce que vous faites vos courses ?
Je fais mes courses, oui, je fais mes courses chez moi, surtout en Bretagne, puisque fin de semaine je suis en Bretagne, mais je visite, ne serait-ce que par principe et par veille concurrentielle, je visite toutes les formes de distribution pour apprendre, pour regarder les produits, les nouveaux légumes. J'essaye de me mettre au parfum et il y a une vraie révolution aujourd'hui. En tout cas, il y a une vraie évolution.
C'est-à-dire que vous allez à la fois dans d'autres réseaux de distribution que les vôtres et également chez les petits producteurs, les marchés. Comment est-ce que vous faites vos courses ?
Oui, alors moi je fais mes courses de manière assez systématique. Je trouve, pardon, ça fait très publicitaire, mais je trouve à peu près tout ce que je recherche dans mon Leclerc local. Mais parce que je suis curieux, parce que aussi je veux, après, je suis patron de mon groupe, donc je veux apporter aussi ce regard, cette fraîcheur, cette ouverture sur l'innovation chez les autres. Donc je passe du temps dans les anciennes concurrentes, je regarde ce que produisent aussi les AMAP, je regarde ça sur les plateformes, je vais beaucoup, beaucoup sur les sites de production. J'y vais par nécessité professionnelle, mais en même temps, je regarde ce qu'il y a dans les serres, je regarde ce qu'il y a dans les champs, je regarde la manière dont c'est produit. Sur les 15 jours, là, je suis allé à l'Assemblée Générale des fermiers de Loué, qui faisaient beaucoup de labels rouges et qui sont aujourd'hui très interpellés. Justement, ils sont plus dans la problématique des cages, par exemple, pour les poules. Eux, c'est fait. Mais ils sont en train d'essayer de voir, du point de vue de la nutrition animale, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, ou du bien-être animal. Je suis allé voir l'association Bleu-Blanc-Cœur, qui donne à manger du lin. C'est essentiellement ça, la clé de lecture.
C'est un label, Bleu-Blanc-Cœur.
Oui, c'est une association à partir de l'engagement d'un nutritionniste qui a créé un réseau de médecins, de pharmaciens conseils qui consiste à dire, au fond, si les animaux ont mangé des choses saines, ils vous ingéreraient moins de choses négatives. Vrai ou faux, il y a une vraie préoccupation, et je ne sais pas à quel degré, mais par exemple, beaucoup de nutritionnistes, il y a 15-20 ans, préconisaient de donner du lin et de mélanger du lin, même dans la nourriture humaine. Et on voit que c'est une préoccupation aujourd'hui qui interpelle le monde agricole organisé. Et puis, dans le monde industriel, là, hier, j'étais à l'Assemblée Générale du groupe Mondelez, un grand groupe international qui doit non seulement nourrir les Français de Landerneau, de la rue Claire et de nos provinces, mais qui nourrit le monde entier et qui donc se pose aussi les choses à travers la notion de protéines, de qualité protéinique, de dosage, d'information, d'étiquetage et aussi de différences culturelles dans la réception de ces informations. Parce qu'évidemment, si en France, on est ce qu'on mange, aux États-Unis, en Inde, on n'a pas forcément la même approche.
Vous avez repris une enseigne développée antérieurement par votre famille et vous en avez fait quelque chose de considérable. J'aimerais comprendre d'abord comment vous avez le sentiment que les Français ont changé de façon de se nourrir depuis 20 ou 30 ans. Est-ce qu'il y a un grand changement ? On verra après l'avenir.
C'est potentiellement un grand changement qui, pour le moment, est limité par le prix des choses, le pouvoir d'achat qu'on peut y consacrer. Parce que les nouveaux modes alimentaires sont plus onéreux que les modes alimentaires, je dirais, industrialistes, industriels.
Les Français, nous parlons plus tard des nouveaux modes.
Je disais ça, c'est parce que, en fait, le mouvement est plus fort que dans la réalité. La réalité est limitée par les aspects budgétaires et aussi peut-être par ce qu'en disent les médias, les suspicions, le food bashing. C'est compliqué aujourd'hui choisir de la bonne nourriture.
Justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis 20 ans, à la fois, il y a eu un basculement vers une agriculture industrielle, une nourriture industrielle, le basculement de la petite épicerie vers la grande surface, créant une sorte de standardisation de la nourriture qui fait qu'on a basculé d'une nourriture beaucoup plus directe, proche, faite à la maison avec des produits naturels, vers une nourriture de plus en plus industrielle où les gens n'ont pas le temps de faire la cuisine ni de faire les courses et achètent des produits tout faits chez vous ou chez vos
confrères. Absolument. Enfin, toute la révolution agricole bretonne, qui était leader, mais la révolution de la production française, des années 60, je dirais, à la fin des années 90, est fondée sur l'idée que nous savons faire des process industriels, qu'il faut industrialiser et standardiser la nourriture. Et le deuxième principe, c'est de dire c'est à nous qu'il revient de nourrir le monde. Et donc, cette culture industrielle avait pour but de nourrir les Français, et en même temps d'être numéro 1, numéro 2, numéro 5 en exportation agroalimentaire, parce qu'on estimait que c'est nous qui pouvions nourrir l'Afrique, nous qui pourrions nourrir une fédération russe qui ne sait pas exploiter ses terres et les mécaniser, etc. Et cette idéologie d'une alimentation saine, sécurisée, mais standard, elle a porté tout l'investissement de la politique agricole française, de la politique nutritionniste française. Au fond, je dirais que l'idée, c'était l'accessibilité. Le fantasme, la peur, il ne faut pas l'oublier, ce sont les 20 années d'après-guerre. Beaucoup de gens ont manqué.
Et les gens, pendant la guerre.
Y compris pendant la guerre. Et donc, les investisseurs, les acteurs économiques de la génération de mon père, de la génération d'Antoine Riboud, le futur Danone, toute cette génération-là, même des grands restaurateurs, prenaient d'abord la démocratisation de l'accès aux bonnes choses, à la sécurité et autres. Et c'est parce qu'on a atteint probablement le haut d'une courbe, voire qu'on n'en avait pas vu les excès et qu'on n'a pas maîtrisé les excès, que depuis la fin des années 90, des mouvements de contestation de cette tendance émergent. Ce ne sont pas les mêmes. Pour autant, on voit bien aujourd'hui, à partir du prisme français, qu'il y a bien toujours un mouvement central qui vise à élever les standards de qualité sur une politique industrielle dont on ne sait pas se passer, et des mouvements latéraux qui s'appuient sur la volonté des consommateurs de maîtriser leur consommation façonner pratiquement leurs aliments, et que ce soit à la maison.
Donc, on va parler de cela. On verra en fonction de ce que vous avez dit si c'est des signaux faibles ou des anecdotes au regard d'une évolution longue. Mais d'abord, il y a eu une évolution de la distribution alimentaire qui était parallèle à l'évolution de l'urbanisation.
Oui.
Donc l'urbanisation a entraîné la nécessité ou s'est accompagné de la création de ces autres formes de distribution alimentaire. Est-ce que vous avez le sentiment que cette évolution était inévitable? Est-ce qu'elle a transformé seulement les façons de distribuer l'alimentation ou est-ce qu'elle a aussi transformé l'alimentation elle-même?
Michel-Edouard Leclerc.
Alors, le phénomène d'urbanisation, c'est un peu un pléonasme de le dire, est venu de la déruralisation.
Oui.
L'agriculture, déjà, même dans les années 60-70, ne nourrissait pas suffisamment le nombre d'hommes qui y travaillaient. Donc, ils sont venus à la ville. Mais d'une manière générale, l'urbanisation a été façonnée moins par les acteurs à qui on l'impute aujourd'hui qu'à la civilisation de la voiture. C'est ce primat donné à la politique industrielle française la voiture, qui tirait l'économie de la consommation, qui a amené à créer des périphériques, des axes, le réseau routier. Et de ce fait, il y a eu un dialogue entre les villes et la voiture. Et les aménageurs, de plus en plus, ont vidé le centre-ville de la circulation des camions, des voitures, etc., entraînant les magasins qui avaient besoin d'être livrés, qui avaient besoin de recevoir les consommateurs, avec, qui avaient des voitures. Tout le monde est parti en périphérie. Hein. Mais ce mouvement n'a pas été pensé, ou plus exactement, je dirais que les aménageurs, à une époque, ont eu un modèle unique en France, qui était la ville auto-centrée, tout ce qui est noble à l'intérieur, et on rejette à l'extérieur les industries, les artisans et la distribution.
Cette émergence des grandes surfaces en périphérie, est-ce qu'à votre avis, ça a changé la façon de se nourrir ?
Non, ce n'est pas... Il y a une corrélation, mais ce n'est pas une causalité, comme aurait dit Edgar Morin. En fait, la distribution a créé des surfaces pour pouvoir offrir cette politique d'offre standardisée qui était celle issue du plan Marshall, du plan d'industrialisation de la France. Il y avait donc des voitures, il fallait créer des parkings. On a Carrefour, par exemple, en 62-63, a créé un modèle qu'on appelait le one-stop shopping. Hein, on n'avait plus qu'à s'arrêter une seule fois. On ne se prenait pas des PV 10 fois dans le centre-ville. Et c'est vrai que l'appareil de distribution a évolué en parallèle des choix industriels qui étaient ceux du plan. Par contre, très vite, ce modèle de l'hypermarché a trouvé des déclinaisons très différenciées. Entre Monoprix, qui restait quand même dans des ensembles commerciaux importants, qui voulaient garder cette notion de proximité, et Carrefour, qui jouait quelquefois sur la taille, la disponibilité à tout, 30 000 mètres carrés, on ne peut pas dire que d'ailleurs la notion de grande distribution permette de décrire ça. C'est fini. La distribution moderne est plurielle et variée, mais elle a été corrélée à ce mouvement de standardisation, incontestablement.
Pour mieux comprendre comment, à l'intérieur de ce système très, très varié, se joue la façon dont les gens se nourrissent. On va essayer de partir du concept de référencement. Vous avez des produits qui sont référencés, qui sont dans les magasins. Mon intuition, vous allez me confirmer ou m'affirmer, c'est que le nombre de références dans un magasin a beaucoup augmenté, ou pas, j'en sais rien.
C'est pour ça que ce n'est pas uniforme. Par exemple, pour parler de chez Leclerc, nous n'avons cessé d'augmenter.
Donc vous avez une plus grande variété de produits.
Plus grande variété, même à surface plus réduite, une plus grande variété. Mais vous avez eu des distributeurs venus des concepts allemands, Lidl, Aldi, groupe Lidl Schwarz, au contraire, qu'on a appelé les hard discounters, qui ont très réduit l'offre, notamment à des marques de distributeurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais dans les années 90, et qui ont au contraire, qui présentaient 2000 références quand un Carrefour en offrait 120 000, vous voyez. Donc le principe n'est pas uniforme.
Et est-ce que le référencement a une influence sur la production? Oui, j'imagine.
Oui, il a une influence. Il a les deux. C'est une dialectique. Puis-je ne pas avoir du Coca-Cola dans un magasin, quand bien même je n'en bois pas? Attention, on ne référence pas ce qu'on aime. Leclerc est le premier distributeur de nains de jardin en France. J'en ai pas chez moi, hein, d'accord? Mais oui, il y a des marques qui, par le marketing et leur savoir-faire, des génies français, comme par exemple L'Oréal, vous ne pouvez pas ne pas avoir leur marque. À quelles conditions? Ça, c'est autre chose. C'est l'affaire de la négociation. Mais leur politique d'offre s'impose à vous, distributeurs, quelle que soit votre envie de formater un rayon à votre goût, à votre... Et puis, vous avez... Donc ça, vous êtes obligé de les avoir. Mais vous avez aussi des marottes. Par exemple, c'est nous qui avons créé les foires au vin. Mais... Et dans les foires au vin, on a décidé de déstandardiser l'offre et de ne plus vendre de vin, mais de vendre des AOC, des étiquettes, des terroirs, des gammes. Et de ce fait, quand j'étais jeune, il y avait des cavistes et des grandes surfaces. Aujourd'hui, les caves à vin de Leclerc, d'Auchan ou de Casino, les meilleurs, valent n'importe quel caviste dans la diversité de l'offre, dans la petit et grand producteur, et même les petits vignerons qui faisaient la fine bouche pour n'être référencé qu'en restauration ou donc chez quelques cavistes, court aujourd'hui pour être référencé dans ce lieu très fréquenté et très qualitatif. Donc, en fait, cette histoire du vin, là, le succès des caves à vin, a été très pédagogique. Elle nous a ouvert à un autre modèle. En tout cas, dans mon histoire personnelle, le fait qu'on ait réussi, dans un monde standardisé, très homogénéisé, avec un référencement du prévendu et du prix, nous enfermait un peu dans cette évolution. Et le modèle du vin, sa diversité, l'histoire des hommes et la narration représentée par chaque étiquette ont fait qu'on ne s'est plus mis à vendre du vin, mais des terroirs, mais des labels. Et du coup, ce modèle du vin, nous sommes en train de le dupliquer pour revisiter et revitaliser toute l'offre alimentaire. Et là, on est à la fois booster d'un nouveau mode de consommation et en même temps, on court après ces nouvelles demandes des consommateurs.
Je voudrais juste parler une seconde avant notre première pause d'un domaine dans lequel il y a une situation qui reste conflictuelle entre vous, les producteurs initiaux et les industriels, qui est le domaine du lait.
Oui.
Dans lequel on a vu encore récemment combien la tension entre le partage de la marge entre les producteurs initiaux de lait, les industries de transformation et vous-même distributeurs est considérable. Quel est votre sentiment sur la conséquence sur la consommation de produits laitiers ?
Michel-Edouard Leclerc.
Eh bien, très simplement, le monde laitier, enfin, au risque que j'attrape des claques en disant ça, n'a pas regardé ce qu'avaient fait les viticulteurs. Il y a 30 ans, un magasin Mammouth et un centre Leclerc dans l'Aude brûlaient et les chais de Monsieur Doumingue parce que, à l'époque, les viticulteurs étaient dépendants du cours du vin. Aujourd'hui, aucun viticulteur n'est dépendant du cours du vin et même quand vous lisez le journal Sud-Ouest, vous savez pas où est le cours du vin. Hein. Il y a les prix des bouteilles qui va de 4 euros à 200 euros. Dans le lait, la production est très productiviste. Le modèle est très productiviste. Même les grandes coopératives...
Il n'y a pas de millésime de lait.
Il n'y a pas de millésime, il n'y a pas de variation de goût, etc. Or, il faudrait aujourd'hui, pour justifier vis-à-vis des consommateurs une rémunération supplémentaire du producteur, il faut créer des raisons de payer plus cher ou des raisons d'acheter plus cher. Ce que font, marginalement, j'insiste, encore, désormais, un certain nombre d'organismes de production, de groupes, avec C'est moi le patron, avec le lait de montagne, avec des laits régionaux. Mais la masse de la production laitière aujourd'hui est un système à l'ancienne où le producteur dit « je produis et vous devez me vendre ». Et je ne suis pas content.
Vous devez
m'acheter. Il faut m'acheter. Voilà. On ne produit pas en fonction du consommateur, etc. Et en plus, on est dans un monde où les nutritionnistes commencent à dire « quand vous êtes adulte, il faut arrêter de boire du lait ». C'est pareil pour la viande. Et donc, la sortie de ce modèle trop productiviste passe certainement par un changement des méthodes d'achat de la distribution ou des critères d'achat, mais ça passe avant tout par une redéfinition et une réappropriation par le producteur du mécanisme de création de valeur.
Donc l'identité, la personnalité,
l'histoire, la narration. Oui. Et c'est pareil pour les fruits et légumes. Les groupes comme Prince de Bretagne, Saveol, dans la volaille Fermier des Landes, Fermier de Loué,
raconte une histoire.
Ils sont décrochés du cours. On achète leur histoire. On achète leur présence à notre table. Et tout ce qui est trop banalisé, on aura beaucoup de mal à lui trouver une autre valeur que celle d'un marché coté et qui est désormais mondial. Le cours du lait aujourd'hui, c'est pas Carrefour qui le fait, c'est pas Leclerc, c'est même pas Lactalis, c'est le marché mondial. Ce sont les Néo-Zélandais, c'est le fait que les Chinois ou pas achètent de la caséine de lait. Et donc, vous avez beau vouloir décréter une rémunération, même par mécénat ou par solidarité, ben ça le fait le temps que tout le monde se met d'accord. En plus... probablement dans l'illégalité par rapport au droit des ententes, mais ça ne peut pas être la bonne solution. La solution, c'est d'aider les producteurs. Et pour ça, il faut des politiques publiques. Il faut une nouvelle politique agricole. Et il faut miser sur ces agriculteurs qui, à l'instar des viticulteurs, ont repris en main le processus de création de valeur ajoutée et pas simplement qui viennent quémander le partage de la valeur ajoutée.
Thank you.
Wind and Steam de Federica Stahl, c'était la bande originale du film Demain, réalisé par Mélanie Laurent. Michel-Édouard Leclerc, pour un futur avec des enseignes mieux disantes en termes d'environnement et de citoyenneté, vous avez dit qu'il fallait instaurer un dialogue entre les politiques et l'avant-garde de l'agriculture française. Qui mettez-vous derrière l'avant-garde de l'agriculture française ?
Oh, dans chaque secteur, il y a des pionniers, il y a des producteurs d'avant-garde. Par avant-garde, j'entends pas le fait qu'ils soient babacool, petit et militant. Mais dans chaque secteur, il y a des coopératives, des groupements.
Est-ce que ça veut dire que vous voulez qu'ils soient éthiques ?
Non.
Pas forcément.
Non. D'abord qu'ils fassent des bons produits, quoi. On est sur un marché. Le consommateur, le client est roi. Après, il a raison ou il n'a pas raison. Il est influencé par les médias parce qu'il lit les préconisations. Mais toujours est-il qu'il y a des producteurs qui font ça vachement bien. Et simplement, vous voyez par exemple l'histoire des poulets en cage. Quand les ONG, il y a déjà 15 ans, ont commencé à montrer la méchanceté, enfin le mauvais être animal que représentait cette concentration de volailles en cage, toute l'Europe, pratiquement toute l'Europe, a banni les poulets en cage. Hein. Mes homologues allemands du groupe Rewe, de Edeka, les groupes hollandais Ahold, les groupes belges Deleuze, qui étaient aussi des groupes aux États-Unis, ou Coop Italia en Italie, ont été voir leurs agriculteurs. Ils ont supprimé les poules en cage et les pouvoirs publics ont aidé à l'investissement pour des élevages de plein air, etc. Nous, en France, réaction corporatiste, réaction très productiviste et corporatiste. Ouais, ça va... On produit pas pour les bobos. Même réaction pour le bio. Hein. C'était ça il y a 10 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait nos producteurs ? Ils ont utilisé ces financements pour accroître la taille des cages, mais pas supprimer les cages. Et donc, aujourd'hui, en France, on est les derniers. Et quand L214, cette ONG issue d'un mouvement américain, vient avec ses caméras pour montrer comment ça se passe et que le public dit « c'est vrai, je veux pas acheter ça », eh bien, on a une réaction corporatiste très forte sur le politique qui dit « il nous faut des sous, il nous faut un fonds, il nous faut... » Donc, moi, je pense que, justement, le politique est souvent prisonnier de celui qui vient quémander. Il est dans la mouvance corporatiste et il n'écoute pas assez les pionniers, les avant-gardes, au moment voulu, quoi. Et donc, dans cette histoire, il faut qu'on arrête les cages. Moi, je m'y suis engagé. Je ne suis pas pour tuer l'agriculteur qui en faisait. Donc, je pense qu'il faut que le politique dise... les priorités d'une politique agricole, sanitaire, sécurité, bien-être animal en France, et qu'il n'ait pas peur aussi de le Foll était assez couillu quand même de ce point de vue-là, aller dire, bon, il faut changer, et puis s'il faut pendant un temps qu'on paye plus cher, ou s'il faut pendant un temps qu'on déroge parce qu'on est en retard à la règle européenne, et qu'il nous faut une certaine protection, un an, deux ans, pour la transition, faisons-le. L'intérêt supérieur du consommateur et de la santé publique autorise ça. Nous avons un droit qui autorise des gestions de crise, nous avons un droit qui autorise les ententes quand elles sont dans l'intérêt du consommateur.
J'aimerais comprendre comment vous voyez, pour mieux comprendre votre point de vue, la fonction du distributeur dans les décennies qui viennent. Est-ce que le distributeur est là pour permettre aux consommateurs d'avoir accès aux produits? Donc sa fonction, c'est modestement et humblement de mettre tous les produits possibles et imaginables à la disposition du consommateur le plus près possible, de la façon la plus convenable. Ça peut être sur Internet, ça peut être magasin de proximité, on parlera peut-être de tout ça tout à l'heure. Ou est-ce que, et aussi, le distributeur a une fonction de prescripteur, c'est-à-dire de se porter garant que ce qu'il apporte sur ses rayons correspond à une certaine vision qu'il peut avoir.
La question est bien formulée parce que, voilà, du temps de mon père, qui a inventé le mot distributeur, nous étions distributeurs. C'est-à-dire, c'est pas nous qui produisions. L'idée, c'était, avec des circuits le plus courts possible, et alors que l'industrie française se modernisait, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un goulot d'étranglement par les marges ou par l'improductivité. Et donc, nous devions amener les consommateurs, les ouvriers, les salariés à pouvoir s'offrir les produits qu'ils avaient contribué à fabriquer, distributeurs. Mais vous avez raison, aujourd'hui, ne serait-ce que par l'influence que nous avons, l'influence de nos marques, parce que nous avons gagné ce pari, nous devenons prescripteurs. Et donc, il ne faut pas se tromper. Alors, d'abord, il y a la loi, il y a le droit. Nous voudrions, moi je voudrais aujourd'hui être prescripteur d'un mieux-disant que la loi. La loi, elle est trop minimale. La loi ne tient pas compte des progrès de la science. La loi n'est pas au rythme des dernières expérimentations et des dernières recherches. Parce que le processus législatif, c'est vrai dans tous les pays, il est biaisé par le poids des lobbies, le poids des corporations, et puis aussi la frilosité d'un politique qui se retranche toujours derrière le principe de précaution plutôt que le principe de responsabilité. Alors ça paralyse, c'est pas un principe d'action le principe de précaution, vous comprenez, c'est le principe de responsabilité qui est important. Donc par exemple, aujourd'hui, sur des dossiers comme les pesticides, la loi a des seuils trop élevés. Tous les scientifiques nous le disent. Tous les scientifiques que je rencontre à l'Académie, des seuils de tolérance trop élevés. Parce qu'au fond, les scientifiques nous disent, c'est vrai, il faut bannir les grandes doses, mais même l'accumulation des petites doses et l'effet cocktail peut, dans la longue, vu qu'on consomme beaucoup les mêmes produits le long d'une vie, puis qu'on vieillit encore plus, c'est dangereux. Donc il faut abaisser les seuils. Pareil pour les perturbateurs.
Est-ce que vous le ferez vous-même?
Ça y est. Alors ça donne des boutons à beaucoup de gens et ça rend perplexe les industriels. Moi, je veux pas donner des leçons de morale. C'est juste les scientifiques avec lesquels que j'ai consulté. J'ai été interpellé par des ONG. Je ne savais pas si elles disaient vrai. Au début, j'aime pas en plus la manière dont les mecs, c'est pour passer à la télé. On va débouler France 3. Ils s'enchaînent au truc. Bon, ok. C'est du cinéma. C'est de la gitprop. J'ai oublié que je l'avais fait quand j'étais aux Amis de la Terre. Mais sur le fond. Donc, il faut voir s'ils ont raison ou pas. C'est ça le vrai problème. Les scientifiques nous disent, oui, il y a un vrai problème. Et pas les scientifiques que français. Hein. Toute la littérature scientifique dit, attention, l'effet cocktail des petites doses. Donc, par exemple, sur les pesticides, s'agissant des marques de distributeurs, où je suis non seulement prescripteur, mais fabricant, j'ai décidé que, et avec les membres de ma coopérative, qu'on allait abaisser tous les seuils et qu'on allait bannir les pesticides. On va bannir des conservateurs, on va bannir des additifs. On ne va pas faire une émission scientifique, mais nous le faisons de nous-mêmes pour nous-mêmes, avec une communauté scientifique qui nous guide. D'accord ? On peut se tromper, on sera critiqué, mais au moins, l'intention, elle est là. Et puis, moi, j'ai envie de manger des bons produits aussi. Donc, je suis cobaye de la marque Repair, qui est la marque de Leclerc. Je suis cobaye de la marque BioVillage, qui est la marque chez Leclerc. Donc, je vais le faire.
Donc, c'est avec votre propre marque que vous produisez des produits qui sont avec un seuil de pesticides.
Voilà,
qui a
on revisite abaissé. Tous nos produits, toute la composition
donc,
des produits.
Vous êtes prescripteur.
Et là, non seulement on va être prescripteur, mais on va être industriel mieux disant. Et puis après, je vends beaucoup de grandes marques. Et là, c'est compliqué parce que les grandes marques, ils ne font pas que pour moi. Les marques de distributeurs, c'est ma patte. Mais les grandes marques, s'ils bougent, ils sont obligés de bouger pour tout le monde. Et là, je me rends compte que ce n'est pas un sujet de conflit. Je me rends compte qu'Emmanuel Faber, qui a succédé au Ribou père et fils à la tête de Danone, Emmanuel Faber, il partage cette même vision qu'il faut que l'entreprise aille plus vite que la loi. Et donc, je lui dis, ce n'est pas un sujet de conflit. Ouvrons des chantiers ensemble. Mathias Dohn, chez Mendelez, donc Mikado, le snacking, la biscuiterie, dit, moi, c'est pareil, on est né dans une politique industrielle, le vite-manger, etc. Mais nous, on est prêts aussi. Donc, travaillons ensemble. Sur les perturbateurs endocriniens, hein, vous savez, ces encres, les unes sont chimiques, les autres sont biologiques. On a été des militants pionniers du recyclage. Mais personne n'est venu nous dire, ni de la puissance publique, ni du ministère de la Santé, que quand on recyclait du Figaro et du Libé avec des emballages de lait ou autre, les encres se mélangent. Alors on est content parce que on a recyclé, on a fait des économies d'énergie, émis moins de CO2, etc. Mais les encres se sont mélangées. Et en plus, pour faire la lutte anti-gaspillage, on a enlevé des emballages intermédiaires. Le riz, il est directement dans la boîte. Les pâtes, elles sont directement dans la boîte.
Au contact de l'encre.
Et alors une ONG, Foodwatch, et l'UFC Que Choisir, qui est aussi une ONG, nous disent, attention, les encres, du coup, on ne les contrôle plus, elles migrent, même dans l'armoire du consommateur, parce qu'ils ne consomment pas tout de suite ces produits de longue durée. Et donc, il y a des risques cancérigènes, etc. Donc, voilà, dès 2017, toute une catégorie de ces emballages qui potentiellement ont ces encres, nous les bannissons et nous avons refait tous nos emballages. Et je me retourne maintenant vers les industriels et je leur dis, dites-nous le temps qu'il vous faut. Je ne veux pas partir en guerre. Mais à partir de quand peut-on dire à nos consommateurs qu'il n'y a plus ce risque dans vos boîtages? Et il ne s'agit pas d'alimenter le food bashing. Il s'agit juste de le faire ensemble. Et moi, je pense qu'en 2020, de cette manière-là, sur tous ces sujets-là, j'amènerai mon enseigne sur le podium
des enseignes les mieux disantes au niveau européen, sécurité alimentaire, affichage nutritionnel, qualité nutritionnelle. Et je fais pas la révolution, je prends ce qu'il y a de mieux chez tous les distributeurs européens. Chaque distributeur européen qui est un peu pionnier sur son marché, Coop Italia, Migros en Suisse ou Coop Suisse, je regarde ce qui se fait, BioCoop, et je vais tout simplement être de manière pragmatique, faire à nos produits, à nos vendeurs, à nos acheteurs, le même travail que chacun fait au mieux.
Naturellement, vous avez aussi et surtout un objectif de rentabilité pour que votre groupe survive, qu'il ne faut pas masquer dans votre discours. Est-ce que vous tiendriez le même discours face à un autre produit qui est aujourd'hui considéré par plusieurs d'ailleurs de nos invités comme un poison, oui, qu'il faut bannir absolument, dont il ne faut pas plus manger le moindre grain, c'est le sucre?
Alors,
chez Édouard Leclerc.
Oui, il faut bannir le sucre, il faudrait bannir l'aspartame et il faudrait bannir l'ersatz, la Slevia ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, je ne sais pas quoi mettre. Et donc, on nous parle de fameux sirop
d'agave,
etc. Mais enfin, l'UFC Que Choisir a aussi regardé sur les effets. Voilà. En gros, je suis à l'écoute de ce qu'il ne faut pas faire et prêt à faire ce qu'il faut pour ne pas faire. Pardon, hein, c'est... Mais le plus compliqué, c'est de remplacer par le bon produit. Quand vous, dans un biberon, vous enlevez une matière pour qu'il n'y ait pas de phtalate, pour qu'il n'y ait pas de perturbateur endocrinien, vous en mettez une autre. Mais 3 ans après, un scientifique vous dit, celle que vous avez mise, on vient de découvrir, pose d'autres problèmes et aussi pervers. Alors là, j'appelle au secours, parce que vous voyez, je m'appelle Michel-Édouard Leclerc, je suis pas trop con, je peux rassembler des gens qui sont compétents, mais si je suis pas guidé dans les choix alternatifs, je fais de la mode, je suis le flux, le buzz, mais je ne suis pas guidé par la communauté scientifique, oui, et je ne suis pas guidé par la loi qui se concentre sur le minimum.
Sur le sucre, il y a une solution très simple, c'est simplement de le remplacer par rien. On peut très bien boire son café et son thé sans sucre, on peut très bien manger des yaourts sans sucre, on peut très bien...
C'est mon cas à titre individuel.
Vous l'achetez chez Carrefour ?
Non, parce que Carrefour, le mimétisme a du bon...
On ne parle pas trop de marque ici.
Si, justement, vous voyez, ça c'est un truc...
Justement.
Les publications nationales, il n'y a jamais de marque. On fait des études économiques sur la distribution, on ne cite jamais. Donc d'accord, on noie tout le monde. Non, il ne faut pas avoir peur. Okay. Bien sûr, on est dans le monde de la publicité, etc. Chacun d'être un peu éthique dans la manière dont il parle. Donc, et justement, parler de Carrefour.
Qu'est-ce qui vous interdit de bannir totalement le sucre de tous vos étagères ?
Parce que je ne sais pas encore trouver les mots, la pédagogie, pour résister à une demande qui sera frustrée et qui, à la moindre crise, aujourd'hui, stocke le sucre, Jacques. Ne l'oubliez pas. Moi, je vois ça. Hein. Je suis à la tête du plus formidable observatoire des comportements sociaux. J'avais 10-12 ans, guerre d'Algérie. Il y avait des attentats, etc., mais il n'y avait pas de guerre en Bretagne, d'accord ? Mais on ne trouvait plus de sucre, on ne trouvait pas d'huile, les gens stockaient. Après les deux crises pétrolières sous Giscard, les gens ont stocké le sucre. Aujourd'hui, quelqu'un qui a manqué dans sa vie, il stocke du sucre, etc. Et donc, oui, c'est un ennemi, le sucre, et encore plus le sucre blanc, etc. Et tous les nutritionnistes le disent, mais... Allez-y, commencez, même dans votre entourage. Imposez vos choix autour de vous. Et c'est Picasso qui passe de la période bleue au cubisme. Il perd tous ses copains devant les demoiselles d'Avignon.
Hein, et vous perdriez tous vos clients.
Non, parce qu'on va... Oui, vous avez raison. Si on le faisait comme ça, peut-être. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le mouvement va se faire ensemble. Et pour ne pas tirer la ficelle à moi, vous voyez par exemple le bio, le premier distributeur de produits bio en France aujourd'hui, ben justement, c'est devenu Carrefour, Leclerc et il y a BioCoop. Leclerc et Carrefour, on est les deux leaders du bio de la distribution moderne. Il y a un distributeur spécialisé qui est BioCoop et autrement c'est nous. Alors qu'on était hier... les plus standardisés. Donc vous voyez, choses se font.
Alors, parlons maintenant des nouvelles habitudes de consommation. Est-ce qu'on peut imaginer que la nourriture bio devienne une nourriture de même prix, de même coût, et qu'elle soit accessible dans tous les lieux de distribution à toute la population française à un prix abordable ?
Oui. Je vais vous dire, c'est mon combat. À l'intérieur de ce combat sur la nutrition et l'environnement, je considère que d'avoir du bio, ça ne doit pas être réservé à une petite minorité. Aujourd'hui, vos confrères professionnels d'une revue qui s'appelle Linéaire et qui est notre référence à nous dans le monde de la distribution, ont calculé et font des relevés de prix. Le bio en France est vendu 69% plus cher que le produit conventionnel. Mmh. C'est inadmissible, ça ne coûte pas 69% plus cher de le produire. Et à l'intérieur de cet écart, c'est considérable.
Vous êtes confiant dans la définition du bio, est-ce que ce n'est pas...
À partir du moment où c'est certifié et que ce n'est pas une allégation non validée par un tiers désintéressé, si je puis dire, oui, Ecocert, c'est du sérieux. Après, il faut probablement faire évoluer, au fur et à mesure qu'on va démocratiser l'accès au bio, il faut être sûr que les terres sur lesquelles on travaille, il faut être sûr que les critères aient suivi leur histoire. Hein. Faire du bio sur la terre Tchernobyl, c'est parce qu'il y a beaucoup de bio dans les pays de l'Est. La radioactivité, elle est toujours là. Attention, on fait dire beaucoup de choses au mot bio. Bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ingrédients chimiques, ça veut dire que c'est un processus. Mais ça n'est ni une garantie de goût, ni une garantie de qualité, et ce n'est même pas une garantie sanitaire. Donc moi, je mange bio parce que, par définition, vous savez qu'il n'y a pas trop de pesticides, ou en tout cas, il y en a moins, peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Après que ça a été produit hors sol, à côté d'Amsterdam, ou à côté de Brèche, chez Saveol, moi, ça ne me dérange pas. Mais les producteurs de bio, ça les dérange. Mais est-ce que c'est le bio dont ils parlent, ou est-ce que c'est plus une autre modalité de rapport à la terre, plus idéologique, plus philosophique?
Et c'est vrai qu'il y a un frein par rapport à l'achat du bio. Est-ce que c'est économique ou est-ce que c'est culturel?
Le bio, c'est d'abord le frein, il est économique. Alors, il est doublement économique. C'est-à-dire, il y a le pouvoir d'achat. À partir du moment où c'est 69% plus cher en moyenne, bah, quand vous gagnez 1 700 euros, le revenu moyen des Français, bah, acheter 69% plus cher ces légumes, c'est cher, quoi. Hein. Et puis, alors, entre nous, ça se justifie pas. Ça veut pas dire que les gens qui vendent du bio s'en mettent plein les poches. C'est juste qu'ils ont pas rationalisé leur circuit de distribution. On peut être bio et pas baba cool. On peut être bio et moderne. On doit être bio. Si on veut démocratiser le bio, il faut quand même avoir un système économique performant. La prime à Small is Beautiful et tout ça, c'est des conneries, hein. C'est tant mieux si tout le monde peut manger du bio. J'insiste, tout le monde se réapplique sur le bio, beaucoup par la peur de manger des pesticides. Donc on revient à notre discours du début. Si la puissance publique faisait revisiter la législation sur les pesticides, on aurait aujourd'hui moins de fantasmes de bio et on fabriquait probablement moins vite du bio au risque d'en faire du faux.
Strawberry Fields Forever, The Beatles, en espérant que les champs de fraises des Beatles ne soient pas pleins de pesticides. Michel-Édouard Leclerc.
Ou le LSD.
Michel-Édouard Leclerc est notre invité cet après-midi.
J'ai jamais goûté le LSD, je ne sais pas si c'est bien, vous avez l'air d'en parler délectation.
J'en parle à cause du 50e anniversaire cette année de...
Timothy Leary, non ?
De Lucie.
Ah oui.
La chanson de Beatles dont on a dit qu'elle était inspirée par le LSD. Quels sont pour vous, dans le petit moment qui nous reste, les pistes à 10-15 ans d'évolution de la nourriture française et internationale.
Le débat français est un débat de riches. Pardon de le dire de manière aussi provocateur, c'est un débat nécessaire, c'est un débat positif qui va aboutir à ce qu'on mange mieux. Mais à l'échelle du monde, c'est un débat de riches. Et la même question, que faut-il manger quand on est en Inde, en Afrique subsaharienne ou périphérie du Sahara, quand on est au Moyen-Orient, du Yémen, du Soudan, etc. Évidemment, l'alimentation, je dirais même pour les riches, elle ne se pose pas de la même manière. D'abord parce que les cultures sont différentes. Là où nous, on s'intéresse aux AOC, aux terreaux, aux terroirs, etc., dans ces pays, on s'intéresse au mieux dans le vin, au cépage, mais on s'intéresse surtout à la protéine. Et pour le coup, parallèlement à une alimentation choisie, fine, mais aussi de culture européenne, on va dire latino-française, doit s'élaborer aujourd'hui une réponse massive au problème de la faim dans le monde et au problème de la qualité de l'alimentation dans des pays qui n'ont pas les moyens de se payer des labels occidentaux. Et là, il ne faut pas avoir peur, et on ne le fait pas assez, parce que les deux discours se confrontent, se choquent, s'annihilent. Aujourd'hui, en Asie, et d'ailleurs on en mange, on ne le sait pas, mais on travaille sur l'économie des insectes, on travaille sur tous les dérivés du soja, qu'on ne nomme plus soja, mais qui aujourd'hui fondent toutes...
Qui sont les alternatives
à la protéine animale. Et c'est un paradoxe. Et puis, là où dans notre pays, je dirais très sélectif, on nous dit l'élevage, faut rester naturel, le saumon d'élevage, c'est pas bien, etc. À l'échelle du monde, c'est une ineptie que de se réserver un tel discours. On ne nourrira pas le Bangladesh, on ne nourrira pas... Combien de populations dans le monde prévues à 20 ans d'ici
on va arriver à 9 milliards.
9 milliards. Donc forcément l'élevage de poissons, c'est l'élevage d'algues, c'est la production de nourriture à partir de l'artifice.
Oui, il y a une autre contrainte qu'il faut ajouter, c'est que ce qu'on n'a pas évoqué ici, c'est la contrainte de l'eau, qui certainement est la première rareté, l'eau potable. Et qui, dans la mesure où elle est consommée de façon massive par l'élevage, sera une des raisons parmi d'autres d'imaginer que la population d'une partie importante de la planète, y compris nous-mêmes, devenons végétariens, qu'on le veuille ou non. Donc les substituts à la nourriture animale. Vous imaginez une France végétarienne ?
D'abord, je ne sais pas si c'est... Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment souhaitable d'un point de vue de la qualité de notre nutrition. Là-dessus, les nutritionnistes ne sont pas clairs.
Les nutritionnistes disent clairement qu'il y a des lacunes, si on est...
Voilà. Et je retiens qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Mais probablement, on va manger de moins en moins de viande rouge, de viande stressée, etc. Mais il n'y a pas non plus assez de poissons naturels où on n'a pas respecté la ressource. Et donc, quand bien même nous, dans nos eaux, après avoir été devant le grand vide au large de Concarneau et des Sables d'Olonne, on attend que ça repousse. À l'échelle du monde, là aussi, il n'y a pas assez de poissons en prévision. Donc il va y avoir des élevages. Donc pour moi...
C'est l'année où l'aquaculture dépasse la pêche sauvage.
Oui. Oui. Alors l'aquaculture, il ne faudrait pas reproduire tous les défauts, la concentration, les extrémités, les antibiotiques et tout ça. Un des trucs qui nous menace, ce sont les élevages de crevettes aujourd'hui au large du Vietnam, au large de la Thaïlande, de la Chine, parce que ce sont des nids à parasites. Mais néanmoins, sortant des excès ou des malfaçons, c'est incontestablement, on va aller là-dessus. Je lisais sur les réseaux sociaux là récemment, des réactions très négatives de consommateurs, de jeunes consommateurs, à des propositions pour le Moyen-Orient de transformation de garages, d'immeubles en hauteur et de garages en hauteur pour faire pousser de la spiruline, de faire pousser des... Ils disent « Ah, mais c'est encore du béton, c'est vertical, etc. » Ouais, mais on oublie qu'il n'y a pas de terre arable autour. Et donc, cet artifice pardon de le dire, j'insiste, j'ai été formé par les Amis de la Terre, j'ai été formé par Edgar Morin, Ivan Illich. Mais oui, mais là, il n'y a pas de terre arable. En tout cas, repartir contre le désert à coups d'eucalyptus et tout, on en a pour un siècle, quoi. Enfin, en tout cas, 50 ans. Les Israéliens l'ont fait un peu...
Les surfaces sont pas extensibles, alors que les besoins...
Non. Et alors, moi, ça me sent... Enfin, intellectuellement, il faut qu'on se prépare à l'idée que si chez nous, on veut reconquérir de la terre arable et limiter les parkings, dans ces pays-là, avoir des centres de production par étage, là où il y a de l'eau, là où l'eau est accessible et pas chère, c'est aussi en termes d'économie de CO2, de rejet, etc., la capacité d'une maîtrise. Et l'élevage, ça va être, je pense, une autre manière de voir d'élevage, mais quand même l'élevage, ça va être très certainement une extension de l'offre très prochainement, de même que les insectes. J'étais très impressionné à la foire de Milan. Mes partenaires au niveau européen, que sont les Coop Italia, qui est une coopérative de consommateurs, avaient présenté avec une équipe du MIT le magasin du futur. Et en fait, ils proposaient sous cellophane un certain nombre, au lieu d'avoir des compléments alimentaires, vitaminés, etc., c'était la nourriture au principal qu'on pouvait composer chez soi avec des protéines d'insectes, des protéines de poissons, toute la partie non exploitée des poissons, les os, les arêtes, etc. Et sur le coup, ça vous dégoûte comme ça. On est presque, comment s'appelait ce film, Soleil vert, c'est d'un temps révolu. Mais quand même, ça fait partie de la question qu'il faut se poser.
Est-ce que ça rentre... Il y a une évolution en cours dans beaucoup d'autres domaines que l'alimentation, qui est le fait de faire soi-même les choses, de prendre différentes dimensions de l'extérieur et de s'approprier les choses et de confondre consommateurs et producteurs. Ce qui voudrait dire en termes d'alimentation, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'acheter soit dans un magasin, soit sur Internet, non pas des choses toutes faites, mais des choses qu'on viendrait recomposer de façon à faire une cuisine de fusion, comme on dit de façon, mais qui soit véritablement personnalisée. Vous imaginez ça comme une possibilité d'être une autre branche de l'alternative que la cuisine sous vide, artificialisée, uniformisée?
C'est un mouvement en cours, avec la baisse du temps de travail, avec la disponibilité, le foyer, je ne dis pas qu'il se recompose autour de l'art culinaire, mais quand même, ça c'est un aspect positif de l'évolution actuelle. Qu'est-ce qu'on vend dans nos rayons jardinage, chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc aujourd'hui? C'est le futur... potager de chacun. Hein? En province, alors il n'y a pas de place à Paris, j'ai bien quelques copains qui plantent du pavot dans les jardins publics, là, mais autrement, c'est le retour du potager chez soi, avec je sais ce que je mets dedans, je sais que du bon, et c'est moi qui choisis, et je fais ma cuisine.
Vous voulez dire que vous vendez des outils de jardinage, des graines, etc.
Des graines, beaucoup, et il y a... comment dirais-je, un appétit de pouvoir tracer par soi-même et de voir aussi mûrir, récolter ce qu'on va manger. Et ça, c'est un mouvement qui est très vertueux. Peut-être qu'en termes économiques, ça reste marginal, mais en termes pédagogiques, c'est fondamental pour l'éducation du consommateur.
Justement, Michel-Édouard Leclerc, sur quel thème vos consommateurs vous interrogent le plus?
Sur la traçabilité. Justement, alors c'est les pesticides.
Du champ jusqu'à l'assiette
Oui, parce que donc ils savent que nous ne sommes pas, que nous n'achetons même pas à la ferme, on achète à des groupements, on achète à des transformateurs. Alors, vous voyez, c'est là où je m'inscris en faux contre les émissions, y compris du service public, hein, où vous n'avez plus une émission positive sur ce qu'on mange, et encore moins, bien sûr, sur. Je trouve que l'industrie aujourd'hui a fait des progrès extraordinaires. Je sais que sur le service public, on cite pas des marques, mais quand même, quand vous mangez un yaourt Danone, un yaourt Yoplait, etc., sur le plan sécurité sanitaire, sur le plan qualitatif, c'est formidable. Dans ma Bretagne, qui était hyper productiviste, dans mon Finistère Nord, où toute la révolution agricole de l'après-guerre a fait tache d'huile sur la France, où j'avais aujourd'hui des groupements de producteurs sous le label Produits en Bretagne qui font aujourd'hui une nourriture de mass market qu'on dit industrielle, mais qui est considérable. Toute la région du sud-ouest...
Vous avez vous-même évoqué les dangers potentiels du lait et les dangers potentiels du sucre, et un yaourt aux fruits, c'est la combinaison de l'un et l'autre. Donc tout est suspect.
Mais le fruit naturel, c'est un bon fruit.
Oui.
Et c'est des fibres, Jacques. Il faut voir ça. Oui. Et justement, il y a un travail qui est fait aujourd'hui par les industriels. Vous voyez, je cherche pas spécifiquement à être consensuel, mais c'est une réalité objective et on a besoin de ça. Dans tout le Sud-Ouest a vu les erreurs du productivisme breton et très tôt est parti dans ses élevages de porc, dans l'art culinaire, aussi le développement de l'art culinaire. Il a appuyé la revendication de ses producteurs sur une revalorisation des standards. Et donc, l'abandon des antibiotiques, les porcs bio, la nourriture, la qualité de la nourriture donnée à l'élevage, tout ça. Il y a des régions qui se reconstruisent. En Alsace, ils étaient très proches du modèle allemand, grosse charcuterie, etc. Il y a des groupements de producteurs aujourd'hui, je ne sais plus les citer comme ça. Il faut les suivre. Et c'est cela qu'il faut écouter parce qu'ils vont entraîner le marché vers un mieux-disant. Donc, je ne nous l'attribue pas tout seuls, nos distributeurs. Nous sommes préconisateurs, nous sommes influents. Nous avons pu l'être trop complices ou trop en connivence d'une industrialisation excessive. Mais aujourd'hui, accompagnons ces producteurs.
Ça va vous pousser à travailler plus avec des producteurs indépendants qu'avec des grandes industries.
Non. Évidemment, je gagnerai de l'auditoire en vous disant ça. Mais c'est pas vrai. Il y a des très bons producteurs indépendants. Mais vous voyez, moi j'ai lancé avec mes coopérateurs un mouvement qui s'appelle les alliances locales. Beaucoup de petits producteurs n'ont pas de marque. Ils sont pas marketés et tout. Donc plutôt que de faire notre marque et de les intégrer, on leur donne une marque ombrelle qui s'appelle Alliance Locale. On ne négocie pas grand-chose. Ils viennent sous cet abri dans l'hypermarché, profitant de l'attractivité de l'hyper. Ils viennent vendre leur production locale. On a 12 000... Il y a un site internet, vous pouvez aller voir, on voit les producteurs. Il y a 12 000 petits producteurs, des toutes petites entreprises qui viennent vendre du fromage de chèvre, du miel, etc. Et c'est vachement bien. C'est friendly.
C'est marginal.
Enfin, ça prend de la place. Mais franchement, ils sont pas particulièrement bio, ils sont pas particulièrement... c'est sympa, et c'est chez nous, ça vient de chez nous. Mais alors que la grande industrie, elle sait qu'elle sera coupable de ne pas faire, et donc elle a les techniciens, les scientifiques. Donc faut pas... Dans les deux, on va trouver des réponses aux solutions. Et c'est cet antagonisme dont il faut sortir. Il faut les pionniers, qu'ils soient grands ou petits, c'est important. On s'en fout que l'innovation vienne d'une start-up, d'une PME ou d'une grande entreprise.
C'est clair. Hein? On a peu parlé des autres modes de distribution qui sont les distributions à distance, le fait que les gens se nourrissent tout au long de la journée. Comment vous voyez l'évolution de la distribution à 20 ans? Est-ce que ça va continuer à être des magasins? On va aller vers une virtualité qui d'ailleurs est contradictoire avec ce souci de local et de réel.
Ouais. Je pense que la consommation courante, le mass market, là où c'est la course corvée, les bouteilles d'eau, à supposer qu'on continue à consommer des bouteilles d'eau, les bouteilles de bière, le PQ, le sopalin, on se le fera livrer ou on ira dans un dépôt relais, un magasin relais. Nous, on réalise déjà, en 2020, on réalisera 10% de notre chiffre, 10% du chiffre d'affaires de Leclerc à partir du net. Hein, nos drives, c'est déjà presque 7% du chiffre d'affaires. En 5 ans, 0 à 7%. Donc, que ce soit Amazon, que ce soit Cdiscount, je fais attention de citer un peu tous les enseignes nouvelles, par respect pour vous, que ce soit Carrefour qui livre ou que ce soit Monoprix, on se déplacera plus pour... En revanche, de la même manière qu'on regarde le potager, de la même manière qu'on écoute les nutritionnistes et de la même manière qu'on fait attention à son corps, on va aller dans un hypermarché dont les standards vont être revus à la hausse. On va aller choisir son poisson, on va aller choisir sa race à viande. Parce que là, on va se faire en même temps une conviction, on va se faire un choix. Parce que, en tout cas, chez nous, en France, on est ce qu'on mange. Vous voyez ? Et ça nous différencie complètement des Américains qui achètent une fonctionnalité. Nous, on se projette, on transforme dans notre tête, avant l'estomac, les ingrédients que l'on a pour voir ce que ça va produire sur nous.
Alors Michel-Edouard Leclerc, on veut effectivement décider le plus tard possible ce qu'on va manger dans la journée, avoir de moins en moins besoin d'aller s'approvisionner loin. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées qui est en ce moment en test de se faire livrer par drone ?
Oh non, ça c'est des conneries ça. Ah mais ça, ils sont géniaux. Bah non, bah bien sûr que non. Qui va... Attendez, au point de vue des libertés, vous allez accepter
vous
de passer
d'avoir... Quand vous commandez votre non, plat de japonais, par exemple, ouais, qui arrive par scooter, vous ne pouvez pas imaginer qu'il arrive par...
Ouais. Vous avez un jardin ?
J'ai un Ouais. La chance d'avoir
imaginez que vous êtes dans votre jardin, là, en train de bronzer et tout. Vous allez voir les drones défiler, là. Vous allez tirer dessus au lance-pierre, au fusil. Non, non. Du point de vue des libertés et du point de vue des pollutions, du point de vue, etc., c'est évident que la puissance publique ne laisse. Le cinquième élément, ça a déjà été fait, le film de Jean-Luc Besson, et c'est un film. Mais c'est pas là. C'est une réalité virtuelle. Voilà. Mais personne n'acceptera que dans les rues de Paris, des centaines de drones, même canalisés, viennent faire. Même sans bruit, viennent avec des caméras pour se diriger, passer au-dessus de vous, etc. Outre la sécurité, c'est quand même une atteinte considérable à notre environnement. Et évidemment, non, ça ne marchera pas. Mais c'est la force des dirigeants d'Amazon que d'annoncer des tas de trucs comme ça. Et une presse, allez, laissez-moi le dire, une presse un peu paresseuse, un peu fascinée, qui n'a peut-être pas les moyens de ses investigations, ça c'est pour les dédouaner, ne remet pas ça en cause. Et en fait, ils sont géniaux chez Bezos, quoi. Et toutes les semaines, ils annoncent un truc, livraison en 24 heures. Bon, moi, je vous promets un truc. Si on fait de la livraison un peu innovante, ce sera à cheval. Et ce sera folklore, mais ce ne sera pas polluant. Et on ramassera les crottes de cheval derrière.
Paris tenu, on verra ça. Dernière question qu'on essaie de poser à chacun de nos invités. Si vous aviez un conseil à un consommateur à donner lorsqu'il vient faire ses courses chez vous pour bien se nourrir, ce serait quoi?
Eh bien, vous voyez, je ne suis pas qu'un vendeur. Je dirais, il faut manger moins et plus judicieusement. C'est le principe que mon docteur essaye d'enfoncer dans mon crâne à coups de Coran nutritionniste, là, et je dois dire que ça me fait du bien, et je veux le bonheur des autres, donc j'ai beau être marchand, je veux être en phase avec la société qui me fait roi, aussi. Et donc, non Jacques, il n'y a pas que la rentabilité. La rentabilité, elle vient par-dessus le marché. C'est justement quand vous êtes...
C'est drôle comme jeu de mots sur
par-dessus
le marché.
Ouais. Et en fait, celui qui est vraiment en phase avec les attentes du consommateur trouvera sa rentabilité. Mmh. Si. Mais les entreprises qui ne sont pas dans l'utilité sociale, qui ne se posent pas tous les matins la question de l'utilité sociale, ne survivront pas. Et donc, j'ose dire, peut-être en conflit avec les intérêts immédiats qui m'amèneraient à dire « il faut vendre plus », non, c'est idiot en plus de le dire comme ça. Je pense qu'il faut peut-être vendre moins, des choses plus judicieuses. Et surtout, il faut que le consommateur mange moins. Le diabète, par exemple, c'est le sucre, mais c'est aussi beaucoup manger, quoi.
Et alors, Frédéric Salmin est un de nos invités.
Voilà. Bon, mais on ne peut pas faire mieux.
Merci Michel-Édouard Leclerc.
Merci à vous aussi. Merci de votre accueil.
Merci Michel.
C'était Le Sens des Choses par Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini, à la réalisation Doria Zénine, à la technique cet après-midi, Régis Nicolas. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à notre invité. Vous pourrez également réécouter et podcaster l'ensemble des émissions de notre série. Pour ceux qui souhaiteraient nous écrire, enfin, voici une adresse email j@attali.com. Merci de votre fidélité et très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.